ignorant que je devais parler ce soir. J'ai lu avec un très grand plaisir les contributions de mes collègues et amis, mais pas du tout la mienne, que j'ai donc largement eu le temps d'oublier. C'est pourquoi j'ai essayé d'esquiver l'exercice, mais ça n'a pas marché. Donc, non, je voulais dire surtout vraiment la très grande joie que j'ai eue à participer à ce numéro. Et moi aussi, comme Jacques Olivier, j'ai beaucoup aimé la page de la rédaction. Qui commence par « Ni à la marge de la philosophie, ni une discipline ou un secteur de la philosophie, ni la partie ou l'élément d'un système de la philosophie ». En fait, ayant beaucoup pratiqué des penseurs de l'esthétique et de la philosophie de l'art qui considèrent l'esthétique ou comme une discipline de la philosophie, c'est le cas de Lips, ou comme la partie d'un système de la philosophie, j'ai pu constater que même dans ces cas de figure, il y a une tension qui naît entre ce qui est mis au jour par l'esthétique, par la pensée esthétique, et ce qui, par ailleurs, dans l'ensemble du système, forme comme le soubassement sur lequel s'appuie cette pensée esthétique. Donc je crois que même dans ces cas de figure-là, et moi c'est ce qui m'est apparu chez Schelling et même chez Hegel, même dans les cas des grandes esthétiques métaphysiques de l'idéalisme allemand, oui, elle table sur la métaphysique, sur les grands principes du système, mais en même temps, dans la précision de leur mouvement et surtout du fait qu'elles doivent étudier ce moment où l'absolu ou l'idée est confronté le plus directement et le plus frontalement possible à la question de l'existence. Il y a une tension qui se crée avec les présupposés métaphysiques. Moi, ce que j'ai observé, c'est plus un moment où je ne vais pas dire que l'esthétique met en difficulté massivement le système, mais un moment de tension et de réveil du système qui est confronté à la question cruciale pour ces philosophies-là de l'existence de l'absolu. Mais donc, ce n'est pas ça le sujet ce soir. Je ne peux pas vous restituer mon article, mais je peux parler un petit peu de ce qui m'intéresse là-dedans, c'est-à-dire donc ce mot allemand de « Einfühlung ». Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'empathie avant l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie, finalement, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un terme très récent. Et le moment où il est apparu dans la langue psychologique et philosophique, c'est le début du XXe siècle, dans la psychologie anglo-saxonne. On le date généralement des cours d'un psychologue américain qui s'appelle Titchener en 1909, qui lui-même l'importe de l'allemand Einfühlung. Alors Einfühlung, c'est pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas germanistes, un mot qui est formé à partir du radical fühlen, qui veut dire sentir, mais c'est un sentir qui commence au sentir de cette table et puis qui va jusqu'à la manière dont je me sens moi-même. Donc là, on est confronté à quelque chose à quoi je suis très très attachée dans mon travail, qui est de repérer les limites de la traduction, ce qui passe, ce qui ne passe pas dans une traduction. Et pour Einfühlung, c'est très important. Et donc, les jours où je veux vraiment faire la provocation, je dis que l'Einfühlung, c'est pas l'empathie. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, parce que je pense que pour nous, aujourd'hui, empathie... Alors là, je vais le dire de manière... on pourrait creuser ça beaucoup plus, mais... pour nous, l'empathie suggère le rapport ou bien à un autre être humain, au moins à un autre être vivant, hein, peut-être avec un animal, on parlera encore d'empathie, peu pour l'instant, mais je pense que le vocabulaire change et évolue aussi, le rapport avec les formes, les sons, les couleurs, tous ces éléments premiers de la perception, et puis dans une sorte de deuxième couche avec les œuvres d'art. Et donc, ce qu'il s'agit de comprendre chez les théoriciens de l'Einfühlung, qui forment toute une constellation au dernier tiers du XIXe siècle dans le domaine germanophone, donc qui comprend des philosophes qui, à l'époque, peuvent être totalement des psychologues, des historiens de l'art et des théoriciens de l'architecture qui peuvent être d'ailleurs en même temps historiens de l'art. Ce qu'il s'agit de penser avec ce concept d'Einfühlung, c'est la manière dont la perception des formes m'affecte. Alors, c'est dit un petit peu trop vite comme ça, mais il s'agit de penser en fait cette corrélation entre trois éléments. Un objet qui est là, qui a une forme spécifique, l'activité par laquelle je perçois cet objet et ce qui se crée entre l'objet ou la chose et moi lorsque je déploie ainsi une activité pour la percevoir et la résonance affective que cette activité même provoque en moi. Et donc, Einfühlung, on l'explique parfois comme une projection, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que voilà, je vois un objet, je me sens de telle et telle manière et j'attribue indûment à l'objet ce contenu affectif. Voilà, je vois je sais pas, une marine avec une tempête, je ressens ce sentiment dynamique et je le plaque sur le tableau. En fait, non, c'est pas une projection. L'idée de ces théoriciens-là, elle est beaucoup plus intéressante, me semble-t-il. Leur idée, c'est que forme, le terme allemand de forme, c'est cela qui se crée dans la rencontre entre cet objet en face de moi qui présente bel et bien certains caractères spécifiques et moi, sujet, qui le constitue comme objet. Dans un moment où, eh bien, voilà, il prend sa place d'objet pour moi, il se détache d'un fond, il m'apparaît avec tel et tel contour, telle et telle luminosité, telle couleur. Et tout ceci, donc, bon, ce sont des explications psychologiques. Toutes ces singularités de l'objet, je les constitue en déployant une activité psychique qui entre en résonance avec tout ce que je suis, moi, par ailleurs. Et ce que ces penseurs appellent Gefühl, hein, ou Fühlen, le sentiment, la manière dont je me sens, eh bien, c'est ce qui résulte de cette rencontre. C'est ce qui résulte de la rencontre entre l'activité que je déploie pour percevoir cet objet tel qu'il est là devant moi et le reste de mon être psychique. Alors évidemment, on voit bien que ça va supposer toute une théorie psychique par derrière, bon, qui demande une étude séparée, mais il me semble que là, il y a une détermination de la forme qui est intéressante dans ce nouage entre caractère de l'objet en tant que tel, type de perception et type d'affect. Et moi, j'ai eu l'impression, en parcourant les différents articles du numéro, qu'il y avait trois concepts qui ressurgissaient ça et là, sous des formes très différentes, mais qui pouvaient former aussi des fils de l'un à l'autre. Alors, il y avait celui de forme, Daniel, tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord. La question de la perception qui apparaît dans le papier de Giuseppe, qui s'interroge sur la différence entre fait perceptif et fait esthétique. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'évidemment, c'est la question qu'on peut poser à ces théories d'Einfühlung. C'est dans la mesure où elles commencent par être des théories de la perception, à quel moment est-ce qu'elles deviennent des théories proprement esthétiques? Donc là, cette question m'a semblé un peu commune. Et puis la question peut-être de la participation, je ne sais pas s'il faudrait appeler ça comme ça, mais pour éviter le terme d'empathie, qui me semble importante dans ton article, Daniel. Et la question de la perception, je pense qu'elle est aussi en filigrane, Pauline, de votre article. Ensuite, je peux répondre à des questions sur mon article, mais non. Après, ce que j'aime bien chez Lips, c'est cette idée qu'il n'y a pas forcément besoin de séparer le technique et l'artistique si on raisonne à partir de la manière justement dont la forme se construit entre l'objet et le sujet. Alors c'est toute une époque, hein, c'est toute cette époque où le technique, où il y a une beauté du technique en lui-même, hein, qui apparaît aussi pour les avant-gardes. Mais Lipps essaye de fonder ça assez rigoureusement en théorisant en fait trois niveaux de l'Einfühlung qui sont autant de niveaux de la symbolisation. Alors symbolisation, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire ce processus par lequel l'œuvre devant moi, en l'occurrence, alors on a un peu du mal à parler d'œuvre quand il s'agit par exemple d'une théière, un exemple que Lipps prend. Mais en tout cas, il appelle bien ça des œuvres d'art techniques. On parlerait de design aujourd'hui, c'est pas un terme qu'il emploie, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc trois niveaux de symbolisation. La symbolisation, ben, c'est ce qui explique la manière dont cet objet, dans le contact perceptif que j'ai avec lui, va prendre pour moi un sens qui est indissociablement perceptif et affectif. Et quand on parle de sens affectif, on n'est pas encore au niveau de l'émotion qui aurait un contour assez déterminé, qui aurait un objet intentionnel précis, mais on est plutôt au niveau de ce qu'on pourrait appeler les tonalités affectives, ou de ce que Wölfflin appellerait aussi les grands sentiments de l'existence. Alors pour l'architecture, ça serait voilà un sentiment de s'élever ou de s'écraser, de s'élargir ou de se rétrécir. Sur lesquels on voit bien que vont pouvoir ensuite s'inscrire des significations symboliques plus déterminées, plus précises, peut-être discursives, mais ça c'est justement ce que ne traite pas cet article et ce que ne traite pas Lipps quand il parle de ça, hein, c'est-à-dire la manière dont finalement on pourrait penser la symbolisation hors de toute réduction au signe, hors de toute réduction à une structure de renvoi d'une chose à un sens qui lui est extérieur, qui est construit hors d'elle, comment on pourrait donc penser la manière dont un symbolisme discursif ou qui peut s'exprimer dans le langage s'engraine sur cette couche affective du symbolisme. Voilà, qui était ce qui m'a intéressé dans cet article.